Geneviève Damas, nous nous rencontrons à la fin d'une des représentations de la pièce que vous mettez en scène, La robe de Gulnara, une pièce écrite par une dramaturge québécoise, Isabelle Hubert. Alors comment vous-même, dramaturge, metteuse en scène et romancière, choisissez-vous les pièces que vous mettez en scène?
Alors, nous avons le même éditeur, Isabelle Hubert et moi, qui est Émile Lanceman. Et donc, moi, je lui avais demandé, il venait un soir manger chez nous, et il m'a dit, est-ce que j'apporte une bouteille de vin? J'ai dit non, une bonne pièce de théâtre. Donc, il m'en a amené plusieurs. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a touchée, c'est que, voilà, c'est cette fable, il y a une limpidité de l'écriture. Enfin, je me suis dit vraiment, c'est extraordinaire. Enfin, j'étais fascinée, en fait. C'est toujours gai, je trouve, de lire des auteurs et d'être fascinée parce que vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, moi, il me dépasse. Et donc, c'était vraiment un bonheur de rentrer dans le mystère de cette écriture, dans cette apparente facilité. En fait, il y a une construction énorme derrière tout ça.
Et alors, cela pour entrer un peu dans le secret, l'atelier de la metteuse en scène, vous l'apercevez à la première lecture ou est-ce que vous faites plusieurs lectures, vous imaginez déjà la mise en scène dont on parlera au moment où vous lisez la pièce ou vous la découvrez?
Alors, d'abord, je lis la pièce une première fois et je trouve que c'est magnifique. Et donc, c'est presque un an et demi plus tard qu'une jeune compagnie me contacte en me disant « on aimerait que tu nous mettes en scène et que j'amène dans mes cartons la robe de Gulnara ». Après, ce que je voulais, c'était un décor qui ne soit pas illustratif. Ça veut dire, on parle tellement de wagons, puisque toute l'histoire se passe dans des wagons qui sont sur une voie désaffectée.
Faites le pitch de la pièce pour ceux et celles qui nous écoutent, mais qui n'ont pas encore vu la pièce.
Donc voilà, c'est dans une zone qui se situe entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a des wagons désaffectés sur une ligne de chemin de fer qui n'est plus utilisée, dans lesquels vivent des populations déplacées par la guerre. Et donc, ils sont là, ils vivent dans des conditions de précarité énormes. Et, enfin, on dit ils sont 10 000. Et parmi ces 10 000, il y a une famille, la famille Nariman, le père, la mère et les deux filles, Gulnara et Mika. Gulnara, elle est née, elle veut se marier, elle va se marier. Et la plus jeune sœur a 13 ans. Et donc, la sœur a mis vraiment toutes ses économies pour acheter une robe qui va être le symbole de la vie future qu'elle veut avoir. Et sa petite sœur, 4 jours avant le mariage, veut essayer la robe. Il l'essaye et fait une tache de goudron dessus. Et puis, ben voilà, elle va devoir réparer, trouver une solution. Et c'est la suite.
Et la petite sœur Mika devient en quelque sorte le personnage central. Parce que c'est elle qui a brisé le destin. Et c'est elle qui va le réparer, mais en payant le prix fort.
Oui, oui, exactement. En fait, étonnamment, c'est vrai qu'on pense au départ... Enfin, Gulnara aussi, elle porte sa part de drame. Sa part de causalité dans l'histoire, mais c'est vrai qu'au centre, c'est Mika qui se débat évidemment avec sa condition d'être fragile et en même temps qui se révèle d'une force extraordinaire, puisqu'en même temps elle répare et c'est vrai qu'elle n'hésite pas au sacrifice.
On ne va pas dévoiler le fil qui permet à Gulnara de se marier. Mais j'aimerais qu'on revienne sur le décor, sur le lieu dans lequel se déroule la pièce et sur le fait que cette pièce était écrite à partir d'une photographie. C'est une commande qui a été faite à l'auteur, Isabelle Hubert, à partir d'une photo de Tim Jordson qui représente et qu'on voit dans le programme d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que souvent les points de départ des histoires, c'est un petit détail. Et donc là, c'est une réfugiée qui porte une robe tellement blanche qu'elle s'est dit, mais comment est-ce possible? Et donc elle a imaginé d'où pouvait venir cette robe si blanche.
Alors, le texte de la pièce, la dramaturgie de la pièce, vous l'avez mise en scène dans un décor dont le dispositif est particulièrement ingénieux parce qu'on sent, sans qu'on ne soit devant un décor de wagon sur une voie désaffectée, on sent tous les personnages, on sent le décor, on sent les 10 000 derrière les 5 ou 6 que l'on voit sur scène.
Mais moi, ce qui m'intéresse évidemment dans les décors de théâtre, c'est que ce soit une machine à jouer. Et donc qui induisent un effet sur le corps, que ce soit par un saut, que ce soit par le fait d'être dans un espace réduit. Et donc, d'emblée, l'auteur de la pièce dit que ça se passe dans des wagons. Et donc, je trouvais qu'on risquait d'aller vers le pléonasme en figurant ces wagons. Donc, je voulais trouver quelque chose qui ne soit pas une habitation, dans lequel on habite, et en même temps qui contraigne le corps. En même temps, en faisant tout un... travail sur les réfugiés, je m'étais dit que c'était vraiment quelque chose qu'on cache comme les placards qu'on a chez nous. Et puis je suis tombée sur cette photo quand même de Elie Wiesel dans les camps.
Oui, la fameuse photo dans les chalets où ils sont à plusieurs.
C'est ça. On abstrait l'humain, on a l'impression qu'ils sont dans une forme de cellier. Et je me disais, en fait, oui, c'est comme une armoire. Et donc, j'ai voulu travailler là-dessus, sur ces différentes imageries. Je me disais encore en plus, l'armoire, c'est vraiment ce qu'on ne peut pas avoir avec soi. Quand on part, en même temps, je pensais à nos politiques de... Voilà, le centre fermé de Steenhuizen, c'est pas difficile. Hein. On parque ces gens-là et on les voit plus. Donc voilà, j'avais envie de travailler là-dessus, plutôt sur quelque chose de symbolique. Et en même temps, qu'il puisse exister en haut, en bas, devant, derrière. Enfin, qu'on puisse... Et puis j'aime bien l'armoire parce que, voilà, elle permet mille choses.
Et le dispositif est très ingénieux aussi parce qu'il permet d'avoir une scène sur la scène et donc de démultiplier l'air de jeu. Et aussi, ce qui permet aussi à plusieurs des comédiens de jouer plusieurs personnages parce qu'il n'y a pas que les cinq personnages incarnés en premier rôle par les cinq comédiens, mais il y en a d'autres.
Oui, c'est ça. En fait, ce qui m'intéressait aussi parce qu'il y a vraiment un côté épique dans cette pièce, qui est que elle commence par un monologue, elle s'achève par un monologue qui est vraiment une narration de conteur, et puis tout d'un coup on tombe dans l'action. Et donc il me semblait important, enfin je travaille peut-être un peu de manière brechtienne, mais de dire que ce sont des comédiens ou ce sont des gens qui interprètent les personnages. Et donc à part Mika, parce que comme elle est quasi dans toutes les scènes, c'est impossible qu'elle joue un autre rôle, mais tous les comédiens jouent plusieurs rôles.
Ce qui est spectaculaire, ce qui est réussi vraiment, c'est le fait que chaque personnage est vraiment incarné par des comédiens qui ne se griment pas, qui ne se dissimulent pas derrière des artifices, mais rien que leur jeu, leur manière de se déplacer et le travail vocal fait qu'ils sont chaque fois un autre.
Oui, moi, donc en fait, on a essentiellement travaillé sur la voix. Donc c'est sur une autre voix, par exemple, pour quelqu'un comme Gérald Audia, c'est très clair, enfin, il est dans le médium, il est dans le grave, il est dans quelque chose de plus aigu. Puisqu'il interprète trois personnages. Et donc, c'était à chaque fois ça. Une comédienne, je lui dis, là, c'est ta voix normale. Là, tu travailles sur le souffle. Et donc, c'est comme un instrument de musique, en fait. Et donc, voilà, ça, c'était important. Bon, ils ont évidemment des éléments de costume, mais qu'en deux secondes, ils soient un autre. Et en même temps, que ce soit au plus près. Parce que je pense que c'est vraiment une écriture presque cinéma. Et on doit... il faut une sincérité, une vérité, quoi. Une justesse.
Il m'a semblé justement qu'à partir de ce choix-là de travailler sur les voix et de multiplier les rôles pour les comédiens, on arrive à éviter le manichéisme ou l'archétype du réfugié, le méchant, le bon, de ne pas aller dans la direction du noir et blanc, mais d'aller dans toutes les nuances, y compris dans celle de la détresse, dans celle de la survie et dans celle aussi du combat.
Oui, parce qu'en fait, moi, ce que j'aimais bien dans cette pièce, c'est qu'en fait, le réfugié n'était pas mis face à celui qui a des papiers, parce que souvent, ça aussi, c'est un peu manichéen. C'est le méchant qui a les papiers et le pauvre gentil qui essaye de s'intégrer. Mais là, ce sont tous des réfugiés qui doivent, en fait, s'en sortir, et chacun a sa manière de s'en sortir. Et donc, par exemple, il y a un personnage qui est effectivement plus noir, qui est le marchand, qui est Javanchi. En même temps, je lui dis, à des moments, il faut des moments de tendresse, il faut des moments de générosité. Et pour des personnages qui sont apparemment plus tendres ou apparemment plus faibles, en même temps, leur montrer des zones plus dures et plus noires. Enfin, voilà. Parce que je pense que l'âme humaine, elle est comme ça. On a le clair et le sombre. Et voilà, c'est trop facile de dire qu'il y a des êtres de sombres et les êtres clairs. Et puis que, voilà.
Alors, la force aussi de ce jeu des comédiens et de la mise en scène que vous leur avez proposé est aussi que l'on sent que chacun des personnages a un très long vécu derrière lui. Même Mika, qui a 14 ans, même la très vieille dame qui s'appelle Soviet, même la dame qui est paralysée des jambes, on sent par leur posture que derrière ces quelques mois que l'on voit vivre dans la pièce sur cette voie de ferrée à l'abandon, il y a toute une vie derrière et qu'il y a peut-être toute une vie qui va suivre.
Oui, alors, ça évidemment, moi c'est ça qui m'intéressait. Par exemple, elle construit vraiment un montage cinéma, donc ça veut dire que la scène commence quand c'est fort et elle s'arrête à partir du moment où c'est plus fort. Donc, ce qu'il faut donner à voir, c'est tout ce qu'il y a entre. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des personnages, beaucoup cherché. Ils ont beaucoup lu aussi, parce qu'avant les répétitions, j'avais donné la lecture. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi une vie qui continue. On a regardé beaucoup de choses, on a croisé des gens, enfin... Voilà. Je pense que le théâtre se nourrit de la vie, c'est obligé.
Quand vous dites que vous avez fait lire vos comédiens, donc ça veut dire qu'il y a tout un travail sur la réalité qui est représentée,
oui.
Qui est fait.
Ben, on leur a fait, il y a tout un groupuscule, quoi, voilà, un petit corpus à, voilà, à lire, que ce soit la littérature ou des documents plus, voilà, plus du documentaire ou plus des écrits sur la réalité ou même des choses de l'ONU, enfin voilà.
Alors quand on voit cette pièce, et ce sera ma dernière question, et quand on entend les réactions du public que j'ai écouté avant de quitter la salle, on se rend compte que c'est une pièce qui non seulement montre une réalité, mais prolonge le spectacle par une réflexion. On ne peut pas s'empêcher de se reposer des questions sur le rôle des sans-papiers, sur la situation dans laquelle ils se trouvent, sur qu'est-ce qui peut se faire. Est-ce que le théâtre a cette fonction-là aussi pour vous ?
Mais je crois que le théâtre nous permet de faire des voyages et nous permet de côtoyer d'autres vies, des vies imaginaires, mais bien réelles parfois. Et je trouve que c'est ça, sa force. Je pense que les êtres humains changent peu, mais parfois ils changent de point de vue en découvrant une autre réalité et ça, ça transforme l'action. Et je crois, enfin moi j'espère sincèrement, je pense que c'est notre force et notre devoir aussi de donner à voir d'autres angles de vue.
Geneviève Damas, avant de terminer cette interview, j'aimerais que vous nous donniez le générique de la pièce, comme ça je suis sûr de n'oublier aucun des noms des comédiens. Et alors je voudrais aussi vous dire, parce que vous ne pourrez pas le dire vous, que la musique est un des instruments magnifiques qui accompagne l'émotion de l'ensemble de la pièce. Et je dirai moi le nom du compositeur. Alors faites-moi le générique de la pièce.
Donc Gérald Wauthier joue les rôles de Javanchi, de Kazimov et de Mayadine. Anne Sylvain joue les rôles de Soviet, de Vilma et de Minara. Donc Mika est jouée par Maya Boulpape. Il y a également Laurence Briand qui joue les rôles de Arzu et de Gulnara. Et puis il y a Saïd Jafari qui joue les rôles de Moubaris, de Arif et de Balaja.
Alors la musique, maintenant je vais dire le nom du compositeur, c'est Philippe Collard-Neven qui par ailleurs est votre compagnon dans la vie, donc vous ne pouviez pas en dire tout le bien que vous en pensez.
Alors, je veux dire aussi la scénographie de Christine Flachoun, les décors, enfin les costumes sont de Chandra Velut. Au niveau de la chorégraphie, c'est Carole Trévoux. J'ai eu un assistant à la mise en scène qui est Thibaut Watley et qui lance aussi les effets, enfin les images de projection sur l'armoire. La création lumière est l'œuvre de Mathieu Houard. Et à la régie, nous avons Aurore. Et tout d'un coup, je ne connais plus son nom de famille.
Je le retrouverai. Merci, merci Geneviève Damas. J'allais dire Isabelle Hubert. Oui. Isabelle Hubert est le nom de l'auteur de la pièce, La robe de Gulnara, qui se joue au Richclair, en tout cas pour cette première série de représentations, du 11 au 29 septembre 2012. Et je ne peux qu'engager ceux qui nous écoutent à s'y rendre, toutes affaires cessantes, et à regarder cette pièce qui est émotion, qui est un beau texte, qui est une magnifique mise en scène et qui montre des comédiens dans un jeu éblouissant. Merci Geneviève Damas.
Merci à vous. Thank you.